Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'islam politique porte en germe une remise en cause radicale du modèle de l'État-nation. Pourtant, les partis islamistes ont toujours dû s'accommoder de réalités sociopolitiques bien différentes de leurs aspirations. Comment ces mouvements abordent-ils les questions du territoire et de la nation? C'est le thème de ce troisième volet de notre série sur les frontières, enregistré en public à la librairie de l'Institut du Monde Arabe à Paris.
Orient Hebdo sur RFI.
Thomas Pierret, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence à l'Université d'Édimbourg en Écosse, spécialiste de l'islam sunnite et de la Syrie. Stéphane Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Professeur associé à l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris, chercheur aux séries, auteur de nombreux ouvrages sur le wahhabisme ou les frères musulmans et plus généralement sur les mouvements islamistes contemporains. Alors, avec islam politique, la question des frontières est évidemment multiple. En premier lieu, la frontière qui ne sépare pas le politique et le religieux, en tout cas, cela pose question pour les pays non musulmans, cela pose-t-il question également dans les pays majoritairement musulmans ?
Alors, cette frontière, elle existe en réalité. Je pense que ce serait trop facile de dire que dans le monde arabe, ce serait un peu essentialiste ou un peu culturaliste presque de dire ce serait différent, le rapport du politique et du religieux serait radicalement différent et les deux sphères seraient pas séparées. En fait, elles le sont de facto, aussi bien dans les pratiques politiques des États que dans la pratique des mouvements islamistes eux-mêmes, en vérité, où il y a des dynamiques de sécularisation tout à fait inattendues, de distinction des acteurs, les politiciens islamistes sont généralement pas des oulémas dans l'islam sunnite. Il ne faut pas oublier que Mohamed Morsi, qui était le président d'Égypte pendant un an, puis qui était l'un des membres dirigeants de la confrérie des frères musulmans, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui est un profane, entre guillemets, de formation. Donc on va retrouver voilà, un rapport qui est souvent plus complexe que ce qu'on imagine. Et en même temps, c'est vrai que, l'islam a certainement une propension aux politiques qui existe, d'ailleurs peut-être elle existe dans d'autres religions, mais c'est vrai qu'au XXe siècle, un certain nombre d'acteurs ont essayé de s'appuyer sur cette propension qu'a l'islam aux politiques. Les régimes eux-mêmes, d'ailleurs, il n'y a pas que les islamistes qui ont été enclins à instrumentaliser, quand ils le pouvaient, la variable religieuse. Les régimes eux-mêmes ont souvent essayé de construire un discours officiel religieux pour précisément tirer profit de cette ressource islamique pour leur légitimité, etc. Qu'on pense à l'Égypte du général Sissi aujourd'hui, qui est arrivé au pouvoir en renversant un président islamiste, mais qui en vérité passe son temps à faire des grands discours sur l'islam, qui a repris le contrôle de l'université Al-Azhar, qu'il utilise pour essayer de propager un discours en vérité pro-régime, parce que c'est ça l'idée, c'est de renforcer le pouvoir par l'islam, et qui en même temps, alors même que là encore, il peut être perçu comme anti-islamiste d'un certain côté, mais en fait il va prendre des mesures tout à fait conservatrices. Il y a depuis l'arrivée au pouvoir de Sissi un conservatisme social ambiant qui a le soutien des autorités politiques et qui va se traduire par des persécutions par exemple contre les homosexuels qui sont, en Égypte, sont assez classiques, le Moubarak lui-même en utilisait, mais là aussi pour donner des gages à une frange conservatrice de la population. Donc là encore, même un anti-islamiste a priori comme Sissi sait manipuler le conservatisme le social et conservatisme religieux quand il le veut. Donc ce rapport, il est là encore complexe, il faut pas certainement pas le réifier, il faut reconnaître qu'il existe, il faut reconnaître qu'il a été une ressource majeure pour un certain nombre d'acteurs, ce rapport entre le politique et le religieux, mais il est complexe et ça va s'articuler de manière très différente selon les mouvements, selon les contextes, selon que ce sont les régimes ou les oppositions, etc.
Et alors justement, dans un contexte conflictuel comme aujourd'hui en Syrie, Thomas Pierret, qu'est-ce que propose l'islam sunnite politique ? Est-ce qu'il propose une voie particulière ?
Le problème, c'est que l'islam politique sunnite en Syrie n'est certainement pas unifié. Il y a un très grand nombre de sensibilités différentes. Donc, il ne propose pas une seule chose. Et peut-être pour revenir à votre question de départ, si on regarde un groupe comme l'État islamique, on voit qu'en fait, il démontre en creux le fait qu'il existe chez les autres mouvements islamiques et même dans des États qui sont généralement perçus comme des États religieux comme l'Arabie Saoudite, il montre que, par son attitude, qu'il y a donc chez ces acteurs une séparation du religieux et du politique. Je m'explique. L'État islamique, lorsqu'il s'est proclamé comme tel et lorsqu'il a proclamé le rétablissement du califat en 2014, dans sa propagande, a fait beaucoup d'efforts pour justifier le fait que son chef, Abou Bakr el-Baghdadi, donc le nouveau calife, était un imam au sens où le définissait la théologie originelle de l'islam, c'est-à-dire quelqu'un qui fusionne les autorités politiques et religieuses. Et ça, c'est un modèle que l'on ne trouve pas chez les autres mouvements islamistes. Je parle sous le contrôle de Stéphane Lacroix, spécialiste de l'Arabie Saoudite, qu'on trouve pas non plus en Arabie Saoudite, où on a une distinction claire entre l'élite politique, qui est la famille Saoud, et l'élite religieuse des oulémas. Là où donc l'État islamique, qui est un mouvement charismatique, hein, au sens weberien du terme, presque prophétique, entend réunifier ces deux autorités. Mais donc, si c'est quelque chose qui le distingue, ça montre bien que chez tous les autres groupes islamistes qui opèrent en Syrie, on ne trouve pas cette même fusion de l'autorité politique et religieuse.
Mais alors, là on parle de l'islam sunnite, est-ce que dans l'islam chiite, les choses sont différentes?
En islam chiite, oui et non, c'est-à-dire qu'historiquement, elles étaient effectivement censées être différentes quand on remonte au chiisme classique, mais qui continue à être incarné partiellement par des figures comme l'ayatollah Sistani, le grand ayatollah Sistani en Irak, qui reste quand même la principale figure religieuse du monde chiite aujourd'hui, hein, bien devant le guide suprême iranien. Sistani a beaucoup plus de gens qui le suivent, comme on dit en islam chiite, puisque dans l'islam chiite, vous devez choisir votre référence parmi les grands ayatollahs de votre époque. Bon, bah, quand vous voyez Sistani qui est l'héritier donc du chiisme classique, on est quand même dans un pouvoir qui se veut un pouvoir religieux, qui a priori se voit comme séparé du pouvoir politique, qui d'ailleurs voit d'un œil peu circonspect ce qui se passe en Iran. L'ayatollah Sistani a jamais été un partisan de la République islamique iranienne pour cette raison, parce que les clercs en Iran ont pris le pouvoir, et pour l'ayatollah Sistani, les clercs n'ont pas vocation à gouverner. Alors, notre collègue Robin Beaumont, qui est avec nous sur le panel, qui travaille sur cette question, nous expliquerait, il aurait raison, que ça n'empêche pas Sistani de temps en temps de faire des fatwas politiques. Donc là encore, cette frontière qui existe entre le politique et le religieux, les acteurs vont quelquefois chercher à la pousser pour faire entrer des questions qui peuvent paraître politiques dans le domaine du religieux, hein. Donc là encore, il y a toujours des luttes de frontières entre les deux, hein. Ça ne veut pas dire que la question est scellée une fois pour toutes. La séparation des deux reste polémique. Mais c'est vrai que pour une partie des chiites, et en particulier les gens qui suivent Sistani, les clercs n'ont pas vocation à gouverner. C'était la grande rupture qu'avait introduit Khomeini, effectivement. Khomeini était d'ailleurs tout seul quand il le fait. Il ne faut pas oublier que la doctrine khomeiniste qui veut mettre les clercs au pouvoir, c'est ce qu'on appelle en arabe le wilayat al-faqih, c'est-à-dire le gouvernement du jurisconsulte, qui est le système politique en vigueur en Iran aujourd'hui. Quand Khomeini le propose au début des années 70, il a face à lui tout l'establishment religieux chiite qui est contre et qui va d'une certaine manière s'y adapter à reculons. Un peu comme on a pu dire, la comparaison a été faite, si vous voulez, comment le judaïsme orthodoxe est adapté à Israël, parce que pour un certain nombre de juifs orthodoxes, voilà, la question d'Israël était problématique, parce que dans leur logique religieuse, les juifs n'avaient pas vocation à revenir en Palestine. Et puis en même temps, c'est vrai qu'un certain nombre d'acteurs de ce monde de juifs orthodoxes vont tirer profit de la présence d'un État qui va les soutenir, qui va leur procurer des ressources, et donc ils vont s'adapter à un cadre qui a priori est pas leur cadre naturel. Ça va être un peu pareil dans le chiisme. Mais Khomeini a vraiment fait un coup de force avec cette fusion proclamée du politique et du religieux dans la République islamique d'Iran. C'est pas du tout quelque chose qui était majoritaire à son époque. Ça reste probablement aujourd'hui quelque chose qui est contesté au sein de l'establishment chiite, mais les acteurs s'adaptent. Les acteurs, et là encore, c'est un des thèmes de notre discussion de tout à l'heure, hein. Les acteurs islamistes sont des acteurs politiques qui prennent à un moment donné la réalité qu'ils ont face à eux et qui trouvent un moyen de s'y adapter, parce qu'après tout, voilà, il y a une malléabilité qui vient de la pratique du politique.
Et donc la politique peut instrumentaliser le religieux, comme l'inverse est sans doute vrai.
C'est ça, comme les oulémas peuvent tirer profit d'un système qui peut leur procurer des ressources, quand bien même ils ne sont pas d'accord avec tout.
Orient Hebdo sur RFI. Écrire orient.hebdo@rfi.fr.
Retour à cette question des frontières dans le monde arabe et notamment dans l'islam politique. Alors il y a une question qui est quand même fondamentale dans l'islam politique, c'est la question de la nation. Quelle est la position des acteurs de l'islam politique vis-à-vis de la nation?
C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un mouvement qui a priori se réclame d'une forme de transnationalisme. Hein, il y a chez les islamistes une nostalgie de l'Oumma, c'est-à-dire de la communauté des croyants, de la communauté des musulmans, qu'on imagine ayant été unifiée à un moment sous le califat, et donc cette volonté de recréer un tout politique qui a cessé d'exister, il y a ça d'un côté. Puis d'un autre côté, il y a des acteurs qui finalement s'inscrivent dans leur pays d'origine, qui souvent, dans le cas des frères musulmans et des mouvements qui étaient affiliés, se sont impliqués politiquement très tôt. Hein. Le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, va concourir pour un siège au Parlement égyptien dans les années 40. Donc c'est pas nouveau que vous ayez des acteurs qui s'impliquent et qui donc, du coup, sont obligés de construire un discours politique national, c'est proposant des solutions pour leur pays en disant « moi, je veux que l'Égypte soit ça et ça et ça ». Donc, d'un côté, vous avez cette tension qui va perdurer, qui va s'adapter, qui va évoluer selon les contextes, qui va plutôt tendre vers une dynamique de nationalisation, c'est-à-dire qu'en fait, les islamistes vont avoir tendance à se faire aspirer par le cadre national, même quelquefois un peu à reculons, mais finalement, il n'y a pas d'autre manière aujourd'hui de penser le politique que dans le cadre national. Donc voilà, mais tout en gardant malgré tout des accents panislamiques qu'on va voir ressortir.
Thomas Pierret, sur cette question de l'État-nation avec l'islam politique.
Disons qu'à l'origine des mouvements islamistes contemporains donc, qui émergent dans les années 20, le problème est peut-être moins important qu'on l'imagine, parce qu'il ne faut pas oublier que ces mouvements émergent dans un contexte où le nationalisme est hégémonique. Alors à l'époque c'est plutôt un nationalisme libéral, mais c'est clairement ça a été d'abord une contre-hégémonie au 19e siècle, et puis ça devient une idéologie hégémonique dans la première moitié du 20e siècle. Et donc on n'a pas à l'époque on va dire des nationalistes qui seraient des laïcs et des islamistes qui seraient par définition des pan-islamistes. On a notamment dans le cas syrien des auteurs extrêmement influents qui en fait vont être des auteurs pionniers de l'idéologie nationaliste arabe, qui vont contribuer à répandre le nationalisme arabe en Syrie, aussi en Égypte dans les années 30, et qui donc c'est le nationalisme, alors qu'il soit défini par rapport à l'État-nation ou de manière plus large comme un nationalisme arabe, n'est pas forcément vu comme problématique. Alors bien sûr, ce qui est problématique, et on y a insisté pendant la conférence, ce sont les frontières contemporaines qui sont dans un état en tout cas comme la Syrie, qui sont perçues comme des frontières artificielles coloniales, mais ça n'est pas du tout une spécificité du discours islamiste, hein, puisque cette remise en cause des frontières nationales, elle est partagée par donc les islamistes, les nationalistes de type plus laïque comme les bassistes ou les nassériens, aussi certains nationalistes libéraux, un courant qui aujourd'hui existe encore un peu, mais qui est le courant grand syrien, qui est un courant plutôt de type fasciste, clairement inspiré par le nazisme ou le fascisme italien, mais qui aussi appelle à une grande Syrie qui abolirait les frontières qui séparent aujourd'hui la Syrie du Liban, de la Palestine, de la Jordanie, de l'Irak, etc. Mais donc on est dans un...
Et même les Kurdes, finalement, d'une certaine façon, sont dans une logique nationaliste. Alors, pas uniquement nationaliste, séparatiste.
Alors, là, disons que la question est compliquée. On peut dire que, historiquement, le nationalisme kurde, tel qu'il se manifeste en Irak, ou en Turquie avec le PKK et avec sa branche syrienne actuelle qui est le PYD, se constitue plutôt sur un mode séparatiste. Mais ce qu'on constate en Syrie au cours des toutes dernières années, c'est une sorte de syrianisation de l'idéologie du parti kurde, donc du PYD, qui est en grande partie une réponse à des circonstances spécifiques qui sont que le PYD a pris le contrôle d'importantes régions à majorité arabe, notamment du fait du soutien militaire américain, qui a donc évidemment une contradiction entre le fait d'être un parti nationaliste kurde et de contrôler des populations arabes ou turkmènes ou assyriennes, puisque le nord de la Syrie est très divers d'un point de vue ethnique. Et a répondu à ça une sorte d'idéologie alternative que le parti appelle le fédéralisme démocratique, qui finalement est présenté comme un modèle qui devrait être copié dans le reste de la Syrie. Mais finalement, c'est la Syrie qui devient le cadre légitime de l'action politique. Et donc le PYD commande aujourd'hui une coalition militaire, donc multiethnique, kurde, arabe, turkmène, qui a été baptisée les forces démocratiques syriennes, donc elles sont syriennes et pas kurdes, et dont le drapeau affiche une carte de la Syrie telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Un drapeau blanc, enfin carte blanche.
Et alors elle est blanche, ça c'est intéressant, qui est sans doute un symbole de la volonté de réécrire ou de reconstruire le système politique sur des bases assez radicalement différentes qui correspondent à l'idéologie de ce parti.
Mais est-ce que le nationalisme aujourd'hui n'est pas en train de prendre le pas sur l'islamisme d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une tentation de se recentrer sur des frontières nationales spécifiques au-delà d'un éventuel pan-sunnisme, par exemple, voire un pan-chiisme?
Je vais laisser Thomas répondre peut-être sur la Syrie après. Si vous voulez, aujourd'hui, le discours nationaliste, il est effectivement très fort, on s'en est aperçu, puisque ça a été l'une des ressources en Égypte, par exemple, du renversement de Mohamed Morsi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ses adversaires ont utilisé contre lui, c'est son transnationalisme présumé. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de l'accuser de faire partie d'une confrérie transnationale qui, forcément, n'avait pas à cœur l'intérêt national égyptien, qui était prête à brader les parties du territoire aux voisins du Hamas ou au Soudan, aux islamistes au sud, en disant...
Ou à l'Arabie Saoudite.
Ou, voilà, parce qu'ils ne croient pas... ou au Qatar, on dit, parce qu'ils ne croient pas en l'État-nation. Et donc les islamistes sous le mandat Morsi n'ont pas arrêté d'essayer d'en rajouter en disant pas du tout, on est égyptien, on est attaché à l'Égypte, etc. Donc il y a une sorte de lutte qui s'est faite. Mais c'est vrai que cette présomption de transnationalisme, en fait, leur a beaucoup coûté. C'est-à-dire que beaucoup d'Égyptiens qui manifestaient contre Morsi, c'était pas tant parce qu'il était conservateur sur le plan social et religieux, parce que finalement le conservatisme social et religieux des frères musulmans, il est très largement partagé en Égypte, mais c'est parce qu'il était vu comme un traître structurel à l'idéal patriotique d'une certaine manière, de par son appartenance à une société secrète transnationale. Et effectivement, on voit que depuis, dans la région, et je pense que les printemps arabes ont accéléré le mouvement, vous avez un certain mouvement islamiste qui, plus que jamais, mettent en avant leur ancrage national. Alors, c'est aussi lié à un contexte géopolitique, hein, parce que là encore, les islamistes font de la stratégie. Aujourd'hui, vous avez des pays de la région, que ce soit les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, qui ont déclaré la guerre aux frères musulmans. Et donc, vous avez toute une série d'organisations qui avaient historiquement des liens avec les frères musulmans, qui se disent « Ah, pas du tout, on n'est pas du tout frères musulmans, c'est terminé. Si, bon, par le passé, mais maintenant, on est complètement indépendant. » An-Narda l'a fait en Tunisie. Hein, c'était l'une des grandes nouveautés en 2016, dans son congrès. On a effacé toute référence aux frères musulmans. On s'inscrit dans l'histoire tunisienne. On dit qu'on est les enfants de Ben Youssef, qui était ce qu'on appelait les youssefistes, un mouvement des années 60, qui était plus conservateur que le bourguibisme. Donc, on va se construire une lignée nationale qui remonte au youssefisme, une filiation nationale. On va faire pareil, donc, en Palestine, en disant, on est palestinien. La dernière charte de Hamas, effectivement, gomme toute référence aux frères musulmans. Le PJD au Maroc, depuis longtemps, dit, on a strictement rien à voir. Et pour le coup, c'est presque vrai dans leur cas, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été une section des frères musulmans, mais ils le mettent beaucoup en avant. Donc c'est vrai que, si vous voulez, les dynamiques politiques et géopolitiques actuelles sont en train d'accélérer ce mouvement de nationalisation, mais qui en fait, à mon avis, est plus ancien et d'une certaine manière remonte aux origines même. Enfin, en tout cas, cette tension était présente depuis le début.
Thomas Pierre. Bon, d'abord, je pense qu'il faut dire que l'État islamique ne... En tout cas, sur le terrain syrien, je ne pense pas qu'il ait réellement dû ses victoires militaires un grand soutien populaire. C'est pas pour dire que ce soutien populaire était forcément absent, mais c'est une organisation qui s'est d'abord imposée par la force et par une technologie du contrôle des populations qui rappelle assez fortement celle des régimes bassistes syriens et irakiens. Et si elle a pu acquérir dans certains groupes une forme de légitimité, c'était beaucoup moins en raison d'un idéal pan-islamique que parce que elle apportait dans un contexte de chaos une certaine forme d'ordre, alors qu'il était extrêmement dur, mais qui pouvait rassurer des gens qui avaient vécu les pillages ou l'anarchie répandue par certains groupes.
Merci Thomas Pierret. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université d'Édimbourg en Écosse. Parmi vos publications, je citerai « Baas et Islam en Syrie, la dynastie Assad face aux oulémas », c'est aux presses universitaires de France. Merci Stéphane Lacroix, professeur associé à l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris, chercheur au CERI. Votre dernier livre publié en anglais, « Saudi Arabia in Transition », c'est chez Cambridge University Press. Orient Hebdo, les frontières, une série enregistrée par Marc Fichet en public à la librairie de l'Institut du Monde Arabe à Paris et mise en onde par François Porcheron. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un journal d'information.